Je vous prie de me pardonner de commencer par une notation un peu personnelle. Parce que si ce texte de l'Épître aux Galates m'émeut profondément, c'est effectivement pour des raisons très personnelles. Tout simplement parce qu'il était central dans la vie chrétienne de mes parents, telle du moins que, avec une grande pudeur, mais avec une forte conviction, ils parvenaient à la partager avec leurs enfants. De sorte que ce texte, je l'entends sans réfléchir comme eux l'entendaient. L'affirmation de notre responsabilité individuelle en réponse à l'amour inconditionnel de Dieu. Alors, qu'en est-il pour chacun d'entre nous ? Qu'est-ce que, pour chacun d'entre nous, ce qu'il est beau d'appeler cette liberté des enfants de Dieu dont parle l'apôtre ? Cela revient à se poser la question de savoir ce qui nous enchaîne en nous-mêmes et donc de savoir de quoi nous sommes libérés. Paul, il s'adresse à des individus. Il leur parle de la circoncision, une pratique dont on comprend qu'elle serait imposée aux Galates qui ne sont pas d'origine juive au moment où ils sont touchés par le message de l'Évangile et qu'ils décident d'entrer dans l'Église que Paul a fondée en Galatie. Paul, en nous parlant de circoncision, il nous donne un élément de réponse. En dénonçant cette pratique, il dénonce, il le dit clairement, l'enfermement dans un stérile respect de la loi. Nous, aujourd'hui, nous avons tous une idée personnelle et donc très concrète de ce dont le Christ nous libère. Et quand je parle d'idées personnelles, ça veut dire que je parle beaucoup d'idées diverses et variées. Ces idées, elles peuvent aller d'une conception empreinte d'une vision très classique, d'une morale essentiellement sexuelle, comme la connotation française donnée au terme grec qu'utilise l'apôtre, traduit par « chair », peut y inciter. Mais on peut avoir aussi des visions beaucoup moins réductrices, si vous me permettez cette expression, de ce qui nous enferme et de ce dont nous pouvons être libérés. Notre volonté de pouvoir, par exemple, nos désirs de succès, l'envie, le sentiment de la culpabilité, l'obsession d'être meilleur, peut-être même aussi, de façon paradoxale, l'épuisement au service des autres lorsqu'il est plutôt tentative désespérée d'échapper à son sens de culpabilité ou tentative non moins désespérée de bâtir l'image qu'on voudrait que les autres aient de nous. Chacune de ces chaînes mériterait de longs développements, mais ça n'est pas par cette approche individuelle que je voudrais méditer ce texte ce matin. Je vous propose plutôt de nous demander ce que nous dit collectivement ce message de l'apôtre Paul. Et je crois qu'il n'est pas illégitime de se poser cette question sous cet angle. Paul écrit en effet à des individus qui sont constitués en communauté. Et comme on le comprend au début du passage, dans les premiers versets, un peu durs, que j'ai lus, au-delà du choix individuel de certains convertis de se faire circoncire, c'est bien un choix collectif des Galates à qui il écrit, c'est bien un choix collectif qu'il dénonce, celui d'exclure les incirconcis, celui de vouloir limiter le message de Jésus, le bénéfice du message de Jésus au seul peuple juif ou à ceux qui décident de se placer sous la loi juive. Ainsi, le débat sur la loi et la circoncision que mène Paul avec vigueur dans ce texte, c'est autant un débat collectif qu'un dilemme individuel. On pourrait le résumer à un débat sur l'attitude qui doit être celle de la communauté face à la persistance d'anciens enfermements. Et ainsi reformulé, on voit bien que ce type de question ne concerne pas seulement les Galates du 1er siècle, mais aussi leurs lointains cousins que nous sommes, nous, ex-Gaulois, vous savez que c'est le même mot, hein, et que ces Galates sont des Celtes, sont censés être des Celtes, qui se sont installés en Asie mineure bien avant Jésus-Christ. Donc, nous, ex-Gaulois du XXIe siècle, ce type de question nous concerne aussi. Tels que nous sommes constitués en communauté ecclésiale, bien sûr, mais tels que nous sommes aussi constitués en communauté nationale. Ce n'est pas pour rien peut-être que j'ai fait ce lien entre Galates et Gaulois. Et c'est autour de cette communauté nationale que je voudrais concentrer mon propos. C'est d'autant plus pour notre communauté nationale le moment de se poser ce type de questions que, collectivement, malgré 4 dimanches d'élections, nous nous trouvons face à des débats collectifs qui sont très loin, c'est le moins qu'on puisse dire, d'être tranchés. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas comparer les programmes des uns et des autres, mais je vais essayer d'appréhender les débats auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés en termes d'enfermement et de liberté, exactement comme le faisait Paul avec les Galates. Ce qui revient à rechercher quels sont les enfermements dont une communauté nationale comme la nôtre doit se libérer. Je vous propose des pistes qui nous sont données par un théologien allemand puis américain qui s'appelle Paul Tillich, un penseur protestant majeur qui a ancré sa réflexion théologique au cœur de la société dans laquelle il vivait. Une société, vous l'avez d'ailleurs peut-être tout de suite compris, et puis vous le connaissez sans doute, une société qu'il a fini par devoir fuir. Parmi ses ouvrages, un écrit juste après la Deuxième Guerre mondiale, « Christianisme et socialisme », et puis un rassemblé dans les années 30, écrit « Contre les nazis ». Un théologien qui s'est exilé aux États-Unis tout simplement pour échapper aux persécutions hitlériennes qui le visaient en tant qu'enseignant, qui s'était fermement opposé aux idées nazies et qui avait fermement aussi défendu ses étudiants juifs. Il me semble que Paul Tillich est quelqu'un qui n'est donc pas mal placé pour nous aider sur les chemins de la liberté. Je vous dis tout de suite que, n'étant pas moi-même je vous l'avoue très simplement, un grand lecteur de théologie, j'emprunte une partie de ces idées de Paul Tillich au texte d'un pasteur Cévenol, publié en avril dernier dans Évangile et Liberté, le pasteur Christophe Cousinier. Paul Tillich essaye de dénommer, de définir les pouvoirs qui lient et qui enferment un peuple. Il les appelle les pouvoirs des origines. Et il en identifie trois. Le pouvoir du sol, celui du sang et celui du groupe social. Pour lui, le pouvoir du sol, c'est l'ancrage dans un terroir d'où on n'ose pas sortir de peur d'être déraciné et affaibli. Le pouvoir, ce qu'il appelle le pouvoir du sang, c'est une vision romantique d'un courage héroïque allié à la mélancolie d'un passé qui n'est plus et à l'exaltation des sacrifices qui pourraient faire revivre ce passé. Et ce qu'il appelle le pouvoir du groupe social, c'est le poids de la lignée qui hérite une règle ancestrale qui doit être transmise intacte. Et cette analyse a fait d'autant plus écho quand on la rapporte au texte de l'évangile de Luc qui nous a été lu tout à l'heure par Louis. On y retrouve dans ce texte et dans les paroles sévères que Jésus adresse à ceux qui manifestent le désir de le suivre, on y retrouve les mêmes chaînes d'une certaine façon. Dans ce texte, Jésus nous est montré comme fermement résolu à prendre la route de Jérusalem en toute connaissance de ce qui l'y attend, et ce texte nous le montre bien peu accommodant avec les potentiels disciples qu'il rencontre en chemin. Je ne sais pas comment vous réagissez à la lecture de ce texte, mais moi, immédiatement, je trouve que Jésus encourage ses potentiels disciples à mal se conduire, à oublier ce qu'ils doivent à ceux qui les ont élevés, à ceux qui les ont entourés jusque-là. Après tout, enterrer son père, dire adieu aux siens qu'on décide de quitter, c'est le minimum qu'on puisse faire. Alors, à la lumière de l'Épître aux Galates et aussi de ces concepts mis en forme par Paul Tillich, cette apparente inhumanité de Jésus, elle prend peut-être un autre sens. Comme s'il mettait le doigt sur le fait que ces légitimes attaches familiales, ce noble respect filial, ces hommages dus aux morts, pouvaient eux aussi devenir des prisons. Comme s'il nous avertissait que derrière ces respectables sentiments peuvent se dissimuler d'autres réactions plus complexes et plus pesantes, le culte du passé, la nostalgie d'un confort tranquille, l'enfermement dans la tradition et dans le clan. Pesante, même si ce mot peut éventuellement choquer, il n'a de sens que parce que Jésus est très clair. Il oppose ces contraintes, ces chaînes, ces réticences, il les oppose à l'appel qu'il adresse à ses potentiels disciples. Et de cette façon-là, je pense qu'il ne peut pas être plus clair. S'il nous appelle, nous, c'est pour nous sortir de cet enfermement, pour nous sortir de tous les enfermements, afin que nous puissions le suivre sans traîner un boulet avec nous. Et ce qu'il nous dit, et ce que reprend aussi avec des mots très forts Paul, c'est que si nous choisissons de nous libérer de tout pour suivre Jésus, c'est pour nous mettre au service les uns des autres dans l'amour et pour devenir, parce que le texte grec, il n'utilise pas de périphrase, il utilise un mot très clair et très simple qui veut dire esclave. C'est pour devenir, donc en traduisant littéralement, les esclaves les uns des autres. Se libérer pour devenir esclave, j'en reviens à mon propos de tout à l'heure, voilà évidemment un programme politique qui n'est pas très facile à vendre. Un programme politique qui ne risque pas de faire recette. Mais voilà aussi une approche des choses qui peut nous faire mesurer combien ces dernières semaines, au contraire, c'était l'enfermement dans le passé, dans le terroir, l'enfermement dans la priorité donnée à l'intérêt personnel sur l'intérêt du plus grand nombre, l'enfermement dans la priorité donnée aux proches, sur le lointain, c'était tous ces enfermements-là qui tenaient le haut du pavé. Comprenons-nous bien, il ne s'agit pas évidemment ici de dire pour qui devraient voter ceux qui se disent disciples du Christ. D'autres ont pris le risque de le faire au moment opportun, avec un meilleur sens de l'à-propos. En cette fin de juin, nous sommes d'accord, c'est trop tard, et si je m'y risquais, j'arriverais à contre-temps. Ce que nous pouvons faire, en revanche, nous qui tentons maladroitement de suivre Jésus sur les chemins qu'il nous a tracés, c'est tout simplement, ou aussi difficile que cela soit, chacun choisira pour ce qui le concerne, c'est prendre la parole pour inviter autour de nous à la réflexion sur ce qu'est véritablement la liberté à laquelle nous sommes appelés grâce à la liberté, cette fois-ci non plus des enfants de Dieu, mais de citoyens au bénéfice d'une constitution démocratique. Donc, inviter autour de nous à la réflexion sur l'usage de cette liberté politique et la nature de cette liberté à laquelle nous sommes appelés, pour éveiller tout simplement à la lucidité sur les obstacles qui se dressent pour barrer la route à cette liberté, et puis aussi pour dessiner et proposer des voies qui nous paraissent justes pour progresser ensemble. Oui, nous pouvons prendre la parole, et puis aussi pour nous faire encore mieux comprendre, nous pouvons mettre en œuvre au quotidien les programmes ainsi esquissés en nous mettant au service les uns des autres. Alors, je voudrais terminer cette réflexion autour de la liberté et des enfermements dont nous parle Paul aux Galates, non plus pour ce qui concerne l'individu lui-même, non plus pour ce qui concerne la communauté nationale, mais juste par un mot, et d'ailleurs c'est facile, c'est encore une citation, sur la communauté ecclésiale, nos églises. Et ce mot, je le trouve dans la bouche d'un autre grand théologien allemand, à qui, lui, la fuite n'a pas été possible et qui l'a payé de sa vie, je parle de Dietrich Bonhoeffer, qui disait ceci, c'est le mot que je nous laisse pour cette méditation, l'Église n'est réellement Église que lorsqu'elle existe pour ceux qui n'en font pas partie. Amen.